Notre plan consiste dans l'immédiat à bloquer tous les ponts, les lignes de métro, le réseau ferré entrant et sortant de la ville.
Oui, vous voulez mettre 12 millions de personnes en cage.
Le confinement est notre priorité absolue.
Axel, une étude originale à la une de la science aujourd'hui pour expliquer comment les colonies de fourmis réagissent face au risque d'épidémie.
Oui Mathieu, et un travail qui a demandé aussi beaucoup de patience à l'équipe suisse qui vient de le publier, puisque ces chercheurs ont suivi le déplacement de chacun des individus de 22 colonies pendant 3 jours, soit 2266 fourmis, qu'il a fallu équiper par un petit code-barre pour les reconnaître une par une.
Quel boulot!
Et oui, c'est du travail. Hein. Et il montre dans la revue Science que l'organisation interne de toute la fourmilière est modifiée en cas d'infection. Une sorte d'immunité sociale dont nous allons parler avec vous, Stéphanie Stroymet. Bonjour.
Bonjour, c'est Nathalie.
Oh pardon, c'est Nathalie. Vous êtes myrmécologue et post-doctorante à l'Université de Lausanne. Et c'est vous qui avez collé la grande partie de ces petits codes-barres de 1 mm sur le dos des fourmis. À quoi ça vous sert de marquer chaque insecte de la colonie pour étudier leur réaction en cas d'épidémie?
Bah en fait, ça nous permet de suivre leur comportement à tout moment. Et c'est une technique nouvelle qui n'existait pas avant, qui permet vraiment d'obtenir une richesse d'informations sur les contacts et les déplacements de chaque fourmi.
Combien de temps il faut pour mettre un code-barre sur une fourmi?
Alors la vitesse de croisière, c'est à peu près une fourmi par minute.
Ah là là, c'est
bravo.
Long. Alors une fois qu'elles sont toutes équipées, j'imagine qu'il a fallu déclencher une infection. Vous avez introduit un pathogène dans la fourmilière, comment ça s'est passé?
Oui, alors tout à fait. On a commencé par mesurer le comportement de ces fourmilières en l'absence de la maladie pour avoir l'organisation de base. Et ensuite, on a prélevé 10% des ouvrières qu'on a pris à l'extérieur du nid. Et ensuite, on les a tout simplement exposées à des spores d'un champignon qui est pathogène pour ces fourmis. Donc on leur a déposé une petite goutte sur l'abdomen, puis on les a retournées à leur colonie.
Qu'est-ce qui leur fait de mal, ce champignon ?
Alors c'est un champignon qui est une maladie commune chez tous les insectes, les spores vont se déposer sur la cuticule de l'insecte, ensuite vont pénétrer à l'intérieur de l'insecte, se développer et en fait tuer l'insecte pour pouvoir produire de nouvelles spores et se reproduire. Donc c'est une maladie qui est mortelle pour les insectes.
Oui, donc il faut s'en protéger et vous avez observé la réaction de la fourmilière pendant 3 jours avec des caméras spéciales qui scannent tous ces codes-barres. Alors on va peut-être passer aux découvertes, qu'est-ce que vous avez découvert?
Donc en fait, on a découvert déjà que les fourmis qu'on a contaminées, nous, manuellement, s'isolent du reste de la colonie. Et elles font ça tout de suite, c'est-à-dire dans les premiers 24 heures, avant que le champignon ait pénétré à l'intérieur, donc avant qu'elles soient malades. Mmh. Donc on sait que c'est une réaction active, en fait. C'est pas un symptôme d'une maladie, c'est une réponse voulue par les fourmis. Et donc elles s'isolent du reste de la colonie, ce qui diminue le risque de transmission.
Oui, c'est sûr.
Et ça, c'était quelque chose qui était plus ou moins connu. Et nous, ce qu'on a observé qui était vraiment nouveau, c'est qu'il y a aussi un changement de comportement chez les autres fourmis, celles qui ne sont pas contaminées. Donc en fait, on a une organisation chez les fourmis qui est basée en groupe de travail avec les fourrageuses qui vont à l'extérieur chercher à manger et les nourrices qui restent à l'intérieur s'occuper de la reine et des larves. Il y a assez peu de contact entre les deux groupes. Et ça fait un effet d'entonnoir qui réduit le risque de transmission d'un groupe à l'autre. Et nous, ce qu'on a vu, c'est que quand une maladie est détectée, cette organisation en groupe est renforcée. Et donc, cet effet d'entonnoir est aussi renforcé et diminue encore plus la transmission de la maladie.
Comment est-ce qu'une fourmi sait qu'elle est elle-même infectée ou que sa congénère est infectée?
Alors ça, c'est une question qui n'est pas encore complètement résolue. On sait qu'elle le détecte tout de suite parce qu'on voit les changements de comportement et on a des hypothèses sur les signaux qui le permettent de savoir ça. Donc c'est peut-être une odeur. Les fourmis travaillent beaucoup avec les odeurs qu'elles détectent avec leurs antennes. Mmh. Donc c'est possible que le champignon ait une odeur spécifique ou bien que lorsqu'il se colle à la cuticule de la fourmi, il y a une odeur qui soit produite. Une autre option, ce serait le goût parce que les fourmis se lèchent elles-mêmes et les autres en permanence. Donc elles pourraient prendre ces spores de pathogène dans leur bouche et puis détecter le goût du pathogène. Ouais. Mais ça on ne sait pas.
Et vous disiez, Nathalie Stroymet, que la fourmi donc sent le pathogène avant même que la maladie soit déclarée, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc nous, on s'est concentré sur ces premières 24 heures avant que la fourmi soit malade, afin de pouvoir étudier les réponses actives des fourmis plutôt que les effets de la maladie elle-même.
Alors vous disiez que les groupes différents dans la fourmilière s'isolent. Quels sont les groupes qui sont protégés à tout prix?
Alors, donc, en fait, les groupes qui sont les plus protégés sont les fourmis nourrices, qui sont aussi les fourmis les plus jeunes, et qui sont en interaction constante avec la reine et le couvain. Donc, pour les fourmis, ce sont des individus qui sont un petit peu plus importants. La reine est vraiment très importante pour la colonie, par exemple. Et donc, cette organisation en groupe va nécessairement isoler ces nourrices et la reine des maladies qui vont être attrapées à l'extérieur par les fourrageuses.
Est-ce qu'il y a des changements dans ce comportement dont on pourrait s'inspirer, nous, en cas d'épidémie que vous auriez remarqué dans les fourmilières ?
Oh ben pourquoi pas ? Déjà, il y a certaines choses que l'on fait déjà, comme la quarantaine. Oui. Donc, quand il y a une maladie qui est détectée, on essaye de diminuer les déplacements aériens en provenance des zones qui sont infectées. Donc ça, c'est ce genre de mécanisme qui peut être appliqué aussi aux humains.
Alors, une très, très, très rapide dernière question. Est-ce qu'il existe des fourmis infirmières ?
Des fourmis infirmières, oui. Donc, en fait, les fourmis, dans la mesure du possible, vont essayer de se soigner les unes les autres. Et donc, en ce qui concerne ce champignon, elles vont enlever les spores pathogéniques de la surface d'autres fourmis qui ont été contaminées. Donc, elles vont les lécher, les prendre dans leur bouche et les mâcher avec un peu d'acide formique pour tuer, en fait, ces spores et soigner leurs congénères.
Elles nous fascinent toujours autant, ces fourmis. Incroyable. À chaque fois qu'on fait une de la science sur les fourmis, on apprend de nouvelles choses qui sont absolument épatantes. Et c'est grâce à vous, entre autres, Nathalie Streumet. Merci beaucoup pour ces explications. Joël Doré, est-ce qu'on s'intéresse au microbiote des animaux, d'ailleurs? Il y a des recherches qui sont menées?
Oui, tout à fait. On étudie le microbiote des animaux.
Pas des fourmis,
vaches, par exemple.
Pas des fourmis.
Et puis,
encore.
Si les insectes aussi nous intéressent, bien sûr, on a pu caractériser le microbiote, par exemple, dans le détail de termites, qui sont xylophages, donc qui mangent le bois.
Le bois.
Et notamment, de caractériser des micro-organismes particuliers qui leur donnent cette aptitude à valoriser la cellulose et les composés du bois.
Allez, on reste avec vous dans un instant sur le microbiote humain. Et puis Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Avec une autre une. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la COP24 est bel et bien lancée depuis hier, donc jusqu'au 14 décembre. La Pologne accueille cette 24e conférence sur le climat des nations. Lors de l'ouverture hier, le célèbre naturaliste anglais David Attenborough a déclaré « Nous sommes confrontés à un désastre provoqué par l'homme et d'envergure mondiale. Notre plus grande menace depuis des milliers d'années, c'est le changement climatique. » Les singes hurleurs du Costa Rica jaunissent en raison des pesticides, normalement noirs ou bruns foncés. Ces petits singes voient de plus en plus leur fourrure se tachetait de jaune. Des biologistes ont cherché à savoir en détail ce qui se passait et leurs conclusions publiées dans la revue Mammalian Biology sont formelles. C'est le soufre contenu dans les pesticides utilisés par les hommes qui modifie la structure pigmentaire de leur peau. La mélanine se transforme en îlot, en phénomélanine qui leur donne donc ces taches jaunâtres. Et puis pour terminer, les chercheurs de la NASA ont compté la quantité de lumière que contient l'univers grâce aux observations de 734 quasars qui sont les objets les plus lumineux observables dans l'univers par le télescope Fermi, donc ça s'est passé récemment. Les scientifiques estiment que le nombre de grains de lumière appelés aussi photons est de 4, suivi de 84 zéros. Ce chiffre inimaginable représente la lumière émise par toutes les étoiles pendant 90% de la durée de vie de l'univers.